Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour Nathalie Rastoin, bienvenue et bonjour tout le monde.
Merci beaucoup.
Oui, vous êtes donc avec nous, nous sommes en direct des studios d'Europe 1, c'est Mediapolis comme chaque samedi. L'émission est réalisée par Jean-Luc Arblade, préparée par Capucine Patouillet. Et aujourd'hui, nous accueillons une personnalité assez originale, non pas par son métier publicitaire, mais plus que publicitaire. J'ai dit tout à l'heure publiciste devant Frédéric Taddeï qui après s'offusquait, mais publiciste c'est professeur de droit public. Non, publiciste c'est quelqu'un au XVIIIe siècle et ça se prolonge aujourd'hui qui intervient dans le débat public. Et Nathalie Rastoin intervient de longue date dans le débat public et de façon assez originale. Elle vient de publier avec sa collègue Batoul Hassoun Un caillou dans la chaussure, ce qui est un titre assez engageant, sous-titre L'humain au cœur de l'entreprise, aux éditions L'Observatoire. Et donc, elle est toute désignée pour commenter avec nous une actualité médiapolitique assez riche, parce qu'au moins, elle le fera d'un point de vue original. Alors, pour commencer, comme d'habitude, Nicolas Canteloup.
Allez, après le Ségur de la Santé, Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un événement du même style pour les problèmes de sécurité et de police. Ce sera donc un Beauvau de la sécurité. Bonjour Emmanuel Macron.
Oui, bonjour à toutes et tous. Et voilà, je compte organiser ce Beauvau de la sécurité, qui est une sorte de Grenelle de la police, finalement, un Ségur de l'intérieur, quelque part. Et dans un an, nous ferons un bilan de tout cela, lors du Ségur des Beauvaux, qui sera un prélude au Bercy des Grenelles de Matignon.
Alors, parlons de ce fameux Beauvau de la sécurité. Pourquoi ce nom, déjà ?
Écoutez, j'aurais pu faire une convention citoyenne de la sécurité, mais... comme ça ne marche pas avec le climat, les Français auraient flairé l'arnaque. Du coup, on change de nom. Ça fait nouveau, ça fait sérieux. Oui. Vous savez, les Français me font beaucoup penser à mon chien Nemo. Et je le dis sans mépris, j'adore les kleps. Quand je veux lui donner un médoc, je mets un peu de pâté autour pour lui faire avaler la pilule.
Oui, ça c'est pour le
chien.
Mais là,
le pâté, c'est comme le nom Beauvau de la sécu. Ça fait passer la pilule.
Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce Beauvau de la sécurité ?
Alors, nous allons mettre les problèmes sur la table. La police a un souci d'image, nous en convenons. Depuis qu'il y a des images de tabassage, de croche-pieds, d'évacuation de tentes avec des migrants à l'intérieur, de flashball dans les yeux, de bavures, de propos racistes et de lacrymo dans les studios de musique, les gens ont curieusement, les gens ont une image dégradée de la police.
Ah, vous croyez ?
On va essayer de comprendre pourquoi et je vous assure, nous sommes déterminés à trouver les raisons de cette cassure.
C'était donc notre ami Nicolas Canteloup, mercredi dans la matinale d'Europe 1. Qu'est-ce que vous pensez, Nathalie Rastoin, de cette nouvelle, pas complètement nouvelle, mais elle s'accentue, on va dire, manie, qui consiste à créer des machins qu'on appelle, donc si je remontais dans le temps, Grenelle de l'environnement, Ségur de la santé, Beauvau de la sécurité.
Alors je trouve qu'il y a un petit paradoxe en fait, parce que le début, c'est le Grenelle, le vrai, les accords de Grenelle. Or, les accords
mai 68,
de mai 68, précise, très exactement, je pense, le 25-26 mai ou 26-27 mai, enfin par
quelle
là.
Quelle mémoire, oui, très
voilà.
Bien.
Et les accords de Grenelle, en fait, c'est avec des corps intermédiaires, en vrai. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement,
les syndicats,
je dirais même, il y a les syndicats ouvriers, les syndicats patronaux, et ils ont un certain nombre d'objectifs en commun extrêmement précis, puisqu'entre autres, ça sort avec... une augmentation énorme du SMIC et la création en particulier des cellules.
Des sections syndicales d'entreprise. Cellules, c'est au Parti communiste, Nathalie Rastoin.
Sections syndicales d'entreprise. À l'époque, il y avait un petit rapport quand même encore. Mais donc en fait, c'est le Grenelle, c'est quelque chose de très structuré.
Et les minimums augmentés.
Et les minimums augmentés. Donc c'est une négociation sociale super structurée.
Ouais.
Or, les Grenelles, Beauvau, Ségur, je les trouve quand même beaucoup moins structurés. Et vous savez que moi, j'adore la démocratie participative dans ce qu'elle apporte. Et logiquement, il y a aussi de la structure. Donc, ce que je trouve dommage, c'est qu'on voit une enveloppe qui correspond à un historique très structuré et qui, elle, ne l'est pas. Donc, c'est sûr que ça crée des frustrations à la sortie.
Mais pour comment ça devrait vous plaire, puisque vous dites qu'il vaut mieux de la démocratie nouvelle, participative, pas limitée aux corps intermédiaires. Donc ça devrait vous plaire, à votre côté, Ségolène Royal, là.
Oui, alors le problème, en fait, c'est que la démocratie participative, c'est pas non plus des discussions de comptoir. C'est-à-dire, il faut le temps d'éclairer l'opinion, il faut des questions super précises, et il faut savoir les moyens de sortie qu'on a. Si vous voulez, c'est pas une enveloppe, c'est pas de la com. Le problème de tout ça, c'est un peu comme la raison d'être pour les entreprises dont on parle. Un bon concept n'est pas de la com. Un bon concept, c'est une structuration et un process. Je trouve quand même que c'est un peu trop, en fait, des noms sur, finalement, des réunions de travail.
Donc, Catherine, vous partagez ce point de vue? C'est du pipeau, si je caricature à
peine.
Non,
mais ce qui est vrai, c'est que ce Beauvau de l'intérieur, c'est une décision d'Emmanuel Macron qui n'en a pas parlé à son ministre de l'Intérieur, mais qui voulait réparer une gaffe, disons, qu'il avait faite auprès des jeunes journalistes de Brut pour parler des violences, des violences policières. Si ça vous fait plaisir que je le dise, je le dis. J'ai pas de pudeur de gazelle pour parler de ça. Il y avait aussi le contrôle au faciès, ce qui a mis le feu chez les policiers qui se sont sentis maltraités, et donc par le président de la République. Donc, pour réparer cette offense, il a remis de l'humain, comme vous diriez dans votre livre, voilà, et il a voulu dire quelque chose d'aimable aux policiers. Ce Beauvau n'étant qu'une reprise du programme que Gérald Darmanin a évoqué devant la commission des lois l'autre jour, qu'il appelait les 7 péchés capitaux du ministère, c'est-à-dire tout ce qui manquait à la police pour bien agir, pour bien avoir les moyens, et puis une autre philosophie. Donc voilà, mais c'est vrai que là, c'est parti, enfin c'est une décision autoritaire, un peu unilatérale.
Ce qui est un peu contradictoire avec un processus de démocratie participative en soi. Mais absolument, il paraît qu'il y a un livre blanc de la sécurité. Donc peut-être que ce livre blanc, non mais j'en parle très sérieusement, livre blanc structure finalement le propos, puisque s'il y a des gens qui ont bossé dessus, peut-être qu'on a de la matière. Parce que vous voyez,
il faut espérer, mais en même temps ça fait bizarre de passer en effet des mois et des mois à faire un livre blanc de la sécurité, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, et puis tout d'un coup on annonce un Beauvau sans, comme l'a dit Catherine Ney, prévenir le ministre de l'Intérieur. Ça fait partie du présidentialisme français qui ne cesse de s'accentuer. On y reviendra dans 2 minutes.
Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Nathalie Rastoin qui publie avec Batou Lassoune, un caillou dans la chaussure, l'humain au cœur de l'entreprise. On évoquait il y a quelques minutes, Catherine Ney, le fait que le ministre de l'Intérieur n'avait même pas été prévenu de la préparation d'un Beauvau de la sécurité. Et Nathalie Rastoin qui l'avait pourtant établi un livre blanc. Je pense qu'il y a une chose assez intéressante qui a été révélée par Corinne Laïc dans son livre « Président cambrioleur » sur une nouvelle forme de médias politiques et d'exercice du pouvoir présidentiel. Elle explique comment il avait déjà comme candidat 6000 contacts dans son téléphone portable et qu'il en a encore plus et encore plus. Et qu'il considère que ce sont des capteurs. Il y a un article très intéressant de Nathalie Segun qui évoque ça dans l'Opinion. Il y a 2 jours, je crois. Et donc, du coup, par ce nouvel outil, il estime qu'il est branché sur le terrain, et ça court-circuite d'autant et les députés et les ministres. Ce qui fait que, si je résume ma thèse, un nouvel outil technologique utilisé par le président conduit à une hyper-présidentialisation d'un régime qui était déjà très présidentialiste. Vous partageriez cette analyse, Nathalie Rastoin ?
Oui, tout à fait. Et en fait, on pourrait dire qu'il a créé lui-même son propre filtre, sa propre bulle médiatique. Puisqu'on voit bien, et c'est d'ailleurs, je pense, quand même une question pour la démocratie, qu'aujourd'hui, chacun a un écosystème médiatique avec de moins en moins, finalement, d'endroits où tout le monde se retrouve. Oui. Et donc, ça pose une question, c'est est-ce que sa bulle, à lui, elle est représentative ou est-ce qu'elle est faite de gens qui ont eux-mêmes des biais cognitifs? Vous voyez, est-ce qu'elle est faite de gens qui sont de vrais capteurs ou est-ce qu'il y a des biais dans ces capteurs?
Alors, par exemple, on peut penser, que je me trompe peut-être, Catherine, vous savez ça mieux que moi, on peut penser que dans ces, 8, 10 000 contacts, il n'y a pas énormément de personnes du monde de la culture. Je dis par rapport au déconfinement qui a été annoncé, à l'allègement du confinement qui a... Ah, écoutez, au durcissement de l'allègement du confinement, je vais y arriver, qui a été
là,
annoncé.
Là, je ne peux pas vous répondre parce que j'en sais rien.
Oui. Non, mais c'est... S'il les a, on ne peut pas dire qu'il les écoute.
C'est une façon dire, que je vais de vous interroger façon, a,
sur le fait qu'on ne rouvre pas les établissements
mais
culturels.
Mais s'il a entre 6 000 et 10 000 oui. personnes et qu'ils regardent sur par les tweets et qu'ils s'informent comme ça, vous pensez bien qu'il ne peut pas satisfaire à la fois 8 000, 10 000 personnes. Et il doit trancher, il prend des décisions parce qu'il a d'abord à régler ce problème de la Covid et tout éviter, surtout qu'il y ait en janvier une troisième vague, c'est ce qu'a dit Castex.
C'est ce qu'a dit Castex, on va l'écouter. Voilà.
Dès lors que nous ne serons pas à 5 000, mais vraisemblablement au double, il est de notre devoir d'en tirer les conséquences et d'adapter les mesures que nous avions envisagé de prendre à l'échéance du 15 décembre. Nous savons que les fêtes de fin d'année, à Noël ou pour le Nouvel An, constituent des moments particulièrement à risque. Le retour d'expérience de ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Canada pour les fêtes de Thanksgiving le démontre amplement, puisque chaque fois, ces fêtes ont entraîné une accélération de l'épidémie. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas baisser la garde.
Alors, sur Thanksgiving, il a raison, hein, parce que certains ont soutenu qu'il n'y avait pas eu d'effet Thanksgiving, ce qui est une erreur. C'est légèrement décalé dans le temps, ce qui va de soi, mais il y a eu des effets considérables aussi, et catastrophiques aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Est-ce que vous considérez que, par exemple, instaurer le couvre-feu, et un couvre-feu assez dur, quoi, assez dur, donc ouais. Un vrai couvre-feu, ça n'aurait pas suffi et que c'est une erreur de se mettre le monde de la culture à dos ou pas, Nathalie Rastoin?
Écoutez, j'avoue que j'aimerais pas être le gouvernement aujourd'hui sur ce sujet du Covid quand même. Hein. Donc, je pense que petit à petit, les gens comprennent que si on veut en être débarrassé, il faut faire en peu de temps quelque chose de très strict plutôt que des tas d'allers-retours. Alors, que ça tombe sur le monde de la culture, c'est un peu curieux parce que je suis moi-même allée la semaine dernière dans un ou deux magasins où j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de distanciation sociale. Mais par contre, que derrière il y ait cette idée que si on fait tous un effort peu de temps, ça nous évitera en permanence de sortir, de rentrer, de sortir, de rentrer. Je pense qu'on y est quand même pour l'opinion. Et personnellement, si vous voulez, je trouve qu'aujourd'hui, quand même, la pédagogie du gouvernement est quand même meilleure qu'au début.
Oui.
En tout
oui.
cas, on a plus l'impression qu'on comprend de quoi il parle oui. qu'au début, puisque c'est quand même entaché par... j'allais dire le mensonge sur les masques qui malheureusement a fait perdre beaucoup de temps à cette pédagogie.
Catherine.
Non mais vous voyez aussi que le monde de la culture c'est pas un monde uniforme, c'est-à-dire vous entendez Mathieu Kassovitz qui au contraire remercie le gouvernement
c'est le
en
seul,
disant
hein. Franchement,
c'est peut-être
le seul
mais enfin c'est quelqu'un d'emblématique oui. et les autres qui sont contre. Vous voyez, bon mais c'est très difficile mais vous voyez aussi que 75% des Français soulignent que c'est bien le couvre-feu c'est bien, vous voyez. Donc parce que quand même les Français ils ont peur. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Il y a maintenant, on connaît tous autour de soi des amis malheureusement disparus dans les familles et que c'est une mort qui est dure, que c'est une sale maladie, que ce virus est vraiment très, 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 très mauvais. Donc, si on peut arrêter, si on peut voilà, éviter une troisième, eh ben, voilà, on est triste pour la culture. On est triste de ne pas pouvoir aller au théâtre. On est triste de ne pas pouvoir aller au cinéma. Voyez, mais on est triste aussi de ne plus pouvoir aller au restaurant. Parce que quand même, culturellement, ça aussi, c'est quelque chose d'épouvantable et qui va nous manquer, sans savoir si les restaurants pourront réouvrir.
Eh bien, vous voyez, dans ce pays qui aime tellement critiquer le pouvoir, j'ai tendu une perche à Nathalie Rastoin et à Catherine Ney pour critiquer avec moi la non-réouverture des espaces culturels et je me suis totalement fait renvoyer dans les cordes. On va voir s'il en va de même pour la suite, c'est-à-dire les vaccins, dans deux minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et avec un caillou dans la chaussure, c'est le titre du livre de Batoulassoul et Nathalie Rastoin aux éditions L'Observatoire. Alors, breaking news du New York Times il y a quelques heures. The FDA authorized Pfizer's coronavirus vaccine for emergency use. La Food and Drug Administration, l'autorité fédérale compétente aux États-Unis pour autoriser des médicaments, vient d'autoriser via Pfizer à utiliser le vaccin en urgence, ouvrant la voie, je termine la breaking news du New York Times, pour que des millions de personnes d'Américains vulnérables puissent être vaccinés dans les jours qui viennent.
Gratuitement ?
Pardon ?
Gratuitement, je voulais savoir, en Amérique.
Je pense que c'est gratuitement, mais je... Nathalie Rastoin dit oui.
Oui, Trump a fait une petite vidéo que vous pouvez voir si vous suivez son compte Twitter, et il dit gratuitement. Donc voilà, il le dit.
Donc s'il le dit, ça veut dire que c'est vrai.
Non, c'est la question.
C'est la question. Autre événement qui s'est produit, nous avons appris que Sanofi retardait la mise en circulation éventuelle de son vaccin parce qu'ils avaient des problèmes d'efficacité déclinante selon l'âge. Alors là, voilà ma question à vous qui êtes vraiment très compétente sur ces questions, sur ces sujets, Nathalie Rastoin. Quand un grand laboratoire annonce ça, est-ce que ça risque d'accroître la défiance à l'égard des vaccins ? Voyez, il y a des problèmes. Ou est-ce que ça va au contraire la réduire quelque peu ? Voyez, ils ne sont pas dans la course effrénée à faire n'importe quoi et ils sont prêts à perdre de l'argent pour être plus efficaces.
Alors là, il faut prendre une décision et je vais vous dire que pour moi, c'est bien. Alors, il y a deux points qu'il faut voir. Le premier, c'est qu'historiquement, les Français sont les plus sceptiques par rapport à la vaccination et ça ne date pas du Covid. En 2019, sur 144 pays, ils étaient déjà les plus sceptiques, sur 144 pays.
On se demande d'ailleurs sur quel sujet les Français ne sont pas les plus sceptiques.
Mais voilà, bon. Mais c'est là que je viens. C'est que je pense que dès que quelqu'un est sceptique, on l'accuse d'être complotiste. Or, tous les gens sceptiques ne sont pas complotistes. Il y a quand même une question, on a le droit d'exercer une forme de doute.
Oui.
Contre le complotisme, c'est compliqué, mais contre le doute, je pense quand même que la réalité et une forme de transparence, c'est une bonne chose. Donc, si j'avais été conseil de Sanofi, j'aurais dit, vous avez raison de faire ça, parce que, encore une fois, face au scepticisme, les complotistes, on y reviendra peut-être, c'est autre chose, mais le doute, ça existe. Et un vaccin trouvé aussi rapidement, avec une technologie dont tout le monde nous explique qu'elle n'a jamais été, en fait, testée à grande échelle, honnêtement, dans le pays de Descartes, on a le droit de poser des questions.
D'accord avec ça, Catherine.
D'ailleurs, l'autre jour, lorsque le président Macron s'est exprimé devant les jeunes de Brut, et lui demandait si la vaccination serait obligatoire, il a dit oui, des vaccins arrivent, mais je ne crois pas du tout à la vaccination obligatoire, parce que je ne sais pas tout sur le vaccin. Est-ce que c'est efficace et comment ? Est-ce que c'est toxique ? Donc, comme encouragement à se faire vacciner, il y a mieux. Donc, il partage lui aussi la méfiance des Français. Mais je crois que la défiance des Français envers la vaccination, ça rime aussi, c'est la défiance envers les autorités de santé. Parce que depuis quelques années, il y a eu beaucoup de santé, de scandales sanitaires. Le sang contaminé, sur l'amiante, le Mediator. Et puis, il y a eu cette fois, et puis on se souvient aussi de la vaccination de l'hépatite B. Vous vous souvenez, on disait que ça favorisait, ça déclenchait la sclérose en plaques. Tout le monde avait peur, voulait pas se faire vacciner.
On disait à tort.
Bon. Comment ?
Si je ne me trompe pas, on le disait absolument à tort.
À tort, bien sûr, à tort, ça a été montré. Mais bon, et donc là, aujourd'hui, si on veut que les Français se fassent vacciner, il faudra que la communication soit vraiment très claire. D'abord, est-ce que le vaccin empêche les formes graves et non la contagion ? On ne le sait pas. Est-ce que le vaccin empêche la contagion ? Et là, ce serait formidable de se vacciner pour se protéger de soi et les autres. Ça, on ne le sait toujours pas. Et aucun vaccin ne le dit pour l'instant.
Mais c'est pour ça que il faudrait vraiment qu'on... Je suis tellement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Vous voyez, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir, Catherine. Parfois, il y a des gens qui me reprochent de vous contredire, d'opposer un point de vue différent. Ils ne comprennent pas que je le fais soit parce que je le pense et que c'est une discussion démocratique.
C'est l'intérêt de notre rencontre
aussi. Soit, même quand on ne le pense pas, c'est pour stimuler les échanges et que chacun ensuite se fasse son opinion.
Oui.
Les gens ont une manière d'être un peu braqué et de comprendre que c'est pas parce que je vais contredire Nathalie Rastoin que j'en veux à Nathalie Rastoin ou que je veux imposer mon point de vue à Nathalie Rastoin. C'est pour la qualité
et
de
moi,
la
moi, je dis à nos auditeurs, je suis très contente aussi que vous me contredisiez. Quelquefois, c'est trop, mais en général, c'est bien.
Bon, bah, quand c'est trop, vous nous le direz. Et puis, parfois, la publicité, c'est trop, mais quelquefois, c'est bien. Là, on va voir parce qu'il faut faire la pause.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Avec Nathalie Rastoin, publicitaire, publiciste, esprit libre. Alors, il y a une chose assez fascinante dans les mots, c'est que de temps en temps, il y a désaccord, voire conflit, sur les mots à employer entre ce que décide le pouvoir et ce qu'impose la société. Et par exemple, moi, l'exemple que j'aime toujours citer, c'est Mitterrand qui voulait absolument pas du mot de cohabitation et qui disait coexistence institutionnelle, et ben patatras, il a été bien obligé de laisser s'imposer le mot cohabitation. Et là, sur le projet de loi confortant les principes de la République, qui a changé de nom à plusieurs reprises, mais à la fin, le pouvoir politique dit c'est un projet de loi, c'est le Premier ministre qui a le pouvoir hein, de présenter un projet de loi, c'est lui qui a le pouvoir de le dénommer, il le dénomme confortant les principes de la République. Et partout dans les médias, y compris ici, là, maintenant, on dit « Ah ben, on va parler du projet de loi sur le séparatisme ». Et donc, il y a des moments où le pouvoir politique n'arrive pas à imposer les noms qu'il veut donner aux choses. Ça, c'est quand même assez étonnant, non, Nathalie ?
C'est que ça ne doit pas être le bon nom, hein, parce que confortant les principes républicains, comment expliquer ? On ne voit pas bien ce que ça avance. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le mot « laïcité » a disparu du débat, parce que d'une certaine manière, c'est un peu la caractéristique française. Et pour tout dire, j'ai récemment eu moi-même un petit épisode difficile. J'étais dans un environnement où il n'y avait que des Américains. Et c'était difficile, et vous l'avez vu avec la presse américaine, de leur expliquer ce qu'est la laïcité à la française. Ce qui va sûrement avec ce texte. Donc, confortant les principes républicains, je pense que même quelques autocrates seraient assez d'accord pour faire une loi qui s'appelle comme ça. Donc ça ne doit pas être top. Mais par contre, pourquoi la laïcité a disparu,
on aurait pu l'appeler,
je ne sais pas.
Sur la mise en œuvre
la laïcité
et le respect,
française.
Ou même sur la mise en œuvre et le respect de la laïcité.
Voilà.
Ça,
là,
c'était
au moins,
précis.
On aurait eu la laïcité. Ouais. On se serait dit, qu'est-ce que notre laïcité ? Est-ce que je veux quelque chose d'ouvert ? Est-ce que je veux quelque chose de fermé ? Les Américains, mes amis américains m'ont dit, mais ta laïcité, elle exclut d'une autre manière.
Oui, mais
et ben, c'était très difficile de leur répondre. Que non, je ne pense pas. Mais c'était un bon débat. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi le truc est devenu aussi mou.
Il y a aussi une...
Non, mais surtout qu'en plus, cette loi sur le ex-séparatisme, mais maintenant qui est devenu principe républicain, est en fait une loi qui va renforcer une laïcité de contrôle sur les cultes, les associations, l'enseignement privé, Internet, hein, pour, voilà. Et même sur les maires. Donc il y a quand même c'est une laïcité... Voilà.
Ça, c'est d'ailleurs un paradoxe assez intéressant, parce que si on résume, il y a deux types de positions, en deux, entre guillemets, camps, j'aime pas employer ces expressions militaires, mais deux points de vue qui se confrontent légitimement sur la laïcité, ce qu'on peut appeler de laïcité intransigeante, laïcité tolérante, ou laïcité libérale, laïcité républicaine, vous pouvez mettre les mots que vous voulez, d'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que les tenants d'une laïcité intransigeante, stricte, défendent, c'est juste dans la continuité de ce que vous venez de dire, défendent une intrusion de l'État dans le religieux.
Hein, oui,
ils défendent un contrôle plus grand, comme vous venez de dire.
Oui.
Ce qui est paradoxal.
Oui.
La laïcité, c'est la séparation, quand même. Et là, pour contenir la progression
oui,
d'une
mais pour mieux religion. Pour mieux arriver à une séparation.
Oui.
Pour forcer une il faut passer par ce contrôle pour établir ce que l'on recherche.
L'autre chose qui me frappe c'est que est-ce qu'on ne peut pas dire que ce clivage sur la laïcité transperce quasiment toutes les forces politiques, peut-être pas le Rassemblement national, mais en tout cas toutes les autres. C'est-à-dire qu'aussi bien chez les Républicains que chez En Marche, que chez les socialistes, que chez les communistes et à la France insoumise, vous avez des, si je caricature, des libéraux et des laïcards.
Les France insoumise aussi, vous trouvez
oui, même à la France insoumise, oui, ils ont eu des débats assez rudes à ce moment-là.
Ça prouve que ça fait partie justement du débat intéressant, puisque ce qu'on peut dire quand même globalement, c'est qu'il y a beaucoup de clivages qui sont à l'intérieur des partis. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les partis eux-mêmes n'ont pas l'air d'être des offres très précises pour les gens. Puisque si... Dans tous les partis, il y a 3-4 clivages très très importants pour les gens.
Ouais.
Peut-être qu'il faut redéfinir pour demain, par exemple pour 2022, les clivages qui vont arriver. C'est quand même aussi un tout petit peu vrai, à mon avis, du développement durable.
Ouais.
Il y a quand même toujours des gens, un peu dans tous les partis, qui ne sont pas persuadés qu'il faille mettre la question du développement durable comme une question centrale des décisions économiques, par exemple.
Moi, je suis moins convaincu que vous. J'aurais peut-être tendance à penser que, allez, en forçant à peine le trait, quand même, la droite est productiviste, quand même, la gauche est écologiste, et quand même, En Marche est moitié l'un, moitié l'autre. Mais vous objectez, je vois que vous n'êtes pas d'accord.
Ah,
Dans deux minutes.
D'accord.
Merci.
Europe 1. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Nathalie Rastoin, qui évidemment fait bloc avec Catherine Ney, sur à chaque fois que j'essaye de présenter une thèse, en donner la contradiction. Et donc, j'émettais l'hypothèse qu'on était plus écologiste à gauche, plus productiviste à droite, et plus les deux, comme d'habitude, au centre et avec Macron. Les deux ou ni l'un ni l'autre, comme chacun voudra. Et patatras, pas du tout, dit Nathalie Rastoin. Elle va nous dire pourquoi.
Bah parce qu'il y a une gauche productiviste, même si elle veut distribuer différemment les fruits du capital. Voilà, c'est historique, il y a une gauche productiviste très forte. Mais surtout, dans beaucoup de thèmes, je trouve que ça passe à travers les partis. Je vais vous donner un autre thème qui, pour moi, est très important, qui est la décentralisation, la fameuse décentralisation qui, en ce moment, manifestement, quand même, a un peu disparu dans les limbes. Là aussi, dans chaque parti, il y a des tenants de décisions qui descendraient quand même un peu plus dans les collectivités locales et des tenants d'une idée très jacobine de la France. Donc ça, c'est un point très important de la politique. Où est la décision, vous voyez ?
Souvent, les débats sont d'ailleurs un peu pipés par le fait qu'il y a une sorte de conformisme sur les mots. C'est-à-dire, par exemple, personne n'ose plus aujourd'hui dire qu'il n'est pas écologiste, vous voyez ? Et donc, ça restreint le débat, parce que le débat est un peu sourd, est un peu caché sur les questions comme la Convention climat.
Une religion obligatoire.
Oui, c'est ça.
On parle de laïcité.
Il y a quand même un conformisme.
Bah, il y a un conformisme du discours, mais après, quand vous regardez dans les actes, il y a quand même encore beaucoup de gens qui vous disent « Je ferai bien cette décision, j'irai bien dans ce sens-là, mais 23 emplois vont être supprimés là. » Or, en général, ils ne regardent pas l'ensemble de l'écosystème. Et sur ces 23 emplois soi-disant supprimés, il y en a peut-être 50 à côté qui vont beaucoup souffrir de cette décision. C'est-à-dire qu'il y a quand même, d'un côté, le fait que tout le monde a compris qu'on ne pouvait pas être non-écologiste, à part Trump. Tout le monde a compris. Mais de l'autre côté, dans la décision même, il reste un productivisme économique.
Et dans la façon de décider, il y a eu un grand débat qui a rebondi, c'est celui sur les conventions citoyennes en général, et particulièrement la Convention citoyenne sur le climat. Écoutez Emmanuel Macron sur Brut vendredi dernier, en 30 secondes.
C'est trop facile de dire ça, de dire c'est, attendez, il y a un truc qui ne nous plaît pas, non vous n'avez pas fait. Non, mais faut arrêter ce sketch.
C'est donc une
et moi je suis vraiment très en colère contre des activistes qui m'ont aidé au début et qui disent maintenant, faudrait tout prendre.
Pensez, justement,
on sait tout ce qui c'est.
On pense à Cyril Guion ensemble.
Mais oui, mais c'est pas honnête de sa part. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible. Mais on n'aurait pas le droit, à un moment donné, de continuer la réflexion collective et qu'on peut continuer de travailler ensemble. Ça, c'est la solution des fainéants.
Donc c'était sur Brut, vendredi dernier, le président de la République. Et une fois de plus, j'y reviens parce que l'émission s'appelle Mediapolis. Une des choses fascinantes, c'est les problèmes soulevés par les mots. Quand vous avez un mot qui cloche dans une démonstration d'ensemble qui pourrait passer, tout est foutu à cause du mot. Et là, c'est truc. Voilà. Juste, il a dit, à deux reprises, il a dit truc. Et dire truc, c'est considéré comme méprisant, c'est comme Darmanin, les flics qui déconnent. Un mot à côté de la plaque et tout s'effondre. On peut dire ça, Nathalie Rastoin, dans le nouveau monde médiapolitique ?
Bah, je pense qu'on peut le dire si on pense a priori que la personne peut vous manipuler, c'est-à-dire ça dépend qui dit truc. Mais là, en fait, c'est l'émetteur qui compte. C'est quand même le président de la République qui dit truc, vous voyez ? Si moi je dis truc, je pense que ça ne fait pas du tout le même effet quand même. Oui. Donc, le problème, c'est l'émetteur. Ça revient au statut de « Ah là là, il dit que c'est un truc, donc est-ce que c'était un truc ?» Parce que dans truc, il y a deux acceptions. Il y a un truc, un machin, une chose, et puis un truc, un tour,
truqué, manipulé,
un tour de passe-passe. Donc, quel truc il veut dire ? Est-ce que lui avait un truc ou est-ce que c'est devenu un truc ? Et donc, comme c'est le président de la République, la chose est lourde.
Et deuxième exemple sans filtre. Quand il avait dit au début, je prendrai sans filtre. Je présenterai sans filtre. Je prendrai sans filtre. Alors, les gens ont compris qu'il allait tout appliquer, alors que lui, il voulait dire qu'ils allaient tout étudier.
ce qui n'est pas la même chose.
Et puis en juin dernier, il avait dit qu'il soumettrait à référendum les 149 propositions des membres de la Convention.
Non, il n'était pas engagé à soutenir les... Pardon, Catherine, des accords factuels. Oui. Il avait dit qu'il envisageait d'en soumettre certaines. Ça ne veut pas dire qu'il allait soumettre les 149. Mais bon, peu importe.
C'est ce que j'avais lu et entendu, mais bon, alors si vous me le dites, voilà. Mais en tous les cas, ce qui est vrai, c'est qu'il donnait à cette Convention citoyenne des pouvoirs sur lesquels il avait déjà reculé, sur trois d'entre elles, notamment la taxe sur les dividendes ou la limitation à 110 km/h sur les autoroutes. Bon, mais quand même, dans leur proposition, il y en a déjà plus de 40% qui font l'objet d'un projet de loi gouvernemental. Donc, il les a quand même écoutés. Voilà, et qu'il y a des exigences. Il y a des caprices aussi chez la Convention
citoyenne.
Ouais, la Convention
bon,
citoyenne.
Et comme Nathalie Rastoin a eu la gentillesse de hocher de la tête et que l'heure avance, une dernière pause avant un tour, allez, très intéressant, de l'autre côté de l'Atlantique.
Europe 1, Médiapolis, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Avec Nathalie Rastoin, alors, bon, d'abord, on va faire un... On va traiter deux sujets aux États-Unis. D'abord celui repéré par Alice Baudry pour nous sur comment Twitter et Facebook vont traiter Trump, parce que c'est quand même une vraie question médiapolitique. Et puis après, ce qui vient de se passer avec la décision de la Cour suprême hier. Ce n'est un secret pour personne que Trump bénéficie d'un traitement préférentiel sur les réseaux sociaux du fait de son statut de président. C'est le sujet qu'a choisi cette semaine Alice Baudry, directrice de la communication de l'Institut Montaigne, qui scrute pour nous chaque semaine l'actualité internationale. Comment Facebook et Twitter vont-ils traiter le compte du président sortant s'il continue à diffuser de la désinformation et des contenus préjudiciables lorsqu'il quittera ses fonctions ? Le papier sur lequel Alice attire notre attention a été rédigé mardi par les spécialistes Michael Robinson et Daryl West du think tank américain Brookings. Et il livre trois scénarios pour ces réseaux sociaux. Un, il pourrait maintenir une position ouverte, libertaire, c'est-à-dire lui permettre de dire ce qu'il veut, sans filtre, sans vérification. Même s'il ne serait plus en fonction, il est un leader politique dont les paroles ont un impact sur le public. Des millions de personnes voudront toujours savoir ce qu'il a à dire. Cette approche est à peu près celle que Facebook semble adopter. Pourtant, ces décisions pourraient faciliter la propagation continue de discours de haine, de fausses informations, et peut-être même à un rythme plus élevé une fois que Trump sera libéré des contraintes de la fonction publique. Deuxième scénario, ces entreprises pourraient supprimer son exception d'intérêt public et le traiter comme n'importe quel utilisateur régulier. Lorsqu'il prononce des mensonges ou fait des déclarations incendiaires, ils peuvent supprimer les tweets ou suspendre temporairement son compte. Certains démocrates, notamment des sénateurs, ont appelé à une plus grande surveillance de sa rhétorique provocatrice, demandant explicitement au PDG de Twitter et de Facebook de surveiller ses comptes après l'inauguration de Biden. Et cette option comporte ses propres risques. Les vérifications des faits sur les réseaux sociaux peuvent polariser davantage les Américains que si les publications n'avaient pas été modifiées. Et troisième scénario, ces entreprises pourraient supprimer définitivement des comptes au motif qu'il est un récidiviste et révoquer complètement ses privilèges d'affichage. Cette approche est à la fois extrême et très risquée. Elle éloignerait Trump des plateformes grand public et le forcerait à s'appuyer sur des sites nouvellement émergents, tels que la plateforme conservatrice montante Parler. Conclusion, il n'y a pas de bonne solution. Nathalie Rastoin.
En fait, il faut suivre le compte Twitter de Donald Trump pour voir qu'il retweet de plus en plus des vidéos de télé. Parce que tout le monde parle des réseaux sociaux, mais quand on parle de Donald Trump, en fait, il faut parler de la télé. Parce que la moitié de ce qu'il retweet, c'est de la télé. Or, je ne vois pas comment on peut empêcher, par exemple, 1 million d'Américains de retweeter un bout d'émission dans lequel parle Donald Trump demain. Donc, bon, je veux bien qu'ils aient tous des grosses stratégies directement sur les réseaux sociaux. Mais imaginons un quatrième scénario, que Donald Trump rachète soit Newsmax, soit One American Network.
Qui sont deux chaînes de télévision ultra conservatrices.
Qui sont deux chaînes de télévision ultra conservatrices qu'actuellement il conseille de regarder directement.
Oui,
il conseille de regarder.
Oui.
Je vous rappelle qu'il a un fichier de ses partisans qui est très gros. Donc
parce que Fox l'ayant lâché, il a lâché Fox.
Il conseille
si je peux le dire
de temps
ça.
En temps de regarder certains chez Fox qui restent un petit peu comme ça. Voilà. Et donc, imaginons ça. Si je demande à l'ensemble de mes partisans de retweeter un petit bout de mon émission sur l'une de ces chaînes, franchement, très honnêtement, je ne vois pas ni Facebook ni Twitter annuler 500 000 comptes d'Américains. Donc, si vous voulez, il y a toujours un aller-retour, il y a toujours une espèce de course-poursuite et les plateformes réfléchissent, mais Trump aussi.
Mais si la première hypothèse, il se comporte comme un homme qui est toujours dans le circuit politique, ce qui n'était pas le cas de ses prédécesseurs, qui ne parle plus, ça veut dire qu'il se prépare à une nouvelle présidentielle, ça veut dire qu'il se rapproche un peu, peut-être, d'un exemple français où quand on est battu, on cherche à revenir et on parle de temps en temps. Alors lui, il parlera plus parce que c'est un vorace, un ogre qui va en faire beaucoup. Mais je veux dire, il va inaugurer aussi quelque chose de nouveau.
Et alors, il y a eu un deuxième événement, c'est... Enfin, ça, c'est pas un événement, ce sont des réflexions sur des événements à venir. Il y a eu un événement hier, c'est que, pour la première fois depuis qu'il conteste l'élection du 3 novembre, Trump est arrivé à la Cour suprême, si je puis le résumer comme ça. C'est-à-dire, pour la première fois, la Cour suprême a eu à se prononcer sur un point de l'élection, et Trump, depuis le début, a dit « Cette élection est frauduleuse, et au bout de l'histoire, la Cour suprême l'annulera ». C'était un recours du procureur général du Texas, républicain, soutenu par 17 procureurs généraux d'État, soutenu par 129 députés représentants, dans la terminologie américaine, républicains, 129 sur 197, c'est quand même assez hallucinant, pour demander l'annulation de l'élection dans 4 États, Géorgie, Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin. Et la Cour suprême a refusé d'examiner même l'affaire, elle a refusé par 7 voix sur 9, avec 2 voix dissidentes qui disaient « on pourrait juste examiner, même si c'est pour rejeter ». Carrément refusé de... Et dans ceux qui ont voté contre le simple fait de l'examiner, il y a Amy Coney Barrett, désignée à la Cour suprême...
Il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps, voilà. Par Trump, pour l'aider à annuler l'élection si c'était nécessaire. Et c'est quand même une formidable démonstration, permettez-moi de vous dire, de l'efficacité des élections... des institutions américaines, ou même quand elles sont politisées, comme l'est la Cour suprême, à un moment donné, la force du droit, lorsqu'elle est flagrante, s'impose par-delà les préférences idéologiques. Nathalie Rastoin.
Bah, c'est aussi l'intérêt des magistrats inamovibles, et dans mon souvenir, la Cour des comptes a aussi droit à cette inamovibilité qui fait que vous réfléchissez parce que vous allez durer beaucoup plus longtemps que Trump. Hein. Voilà, donc vous ne pouvez pas commencer forcément votre carrière de juge avec quelque chose qui va vous poursuivre très très longtemps.
L'inconvénient, c'est l'adage, un juge à la Cour suprême ne démissionne jamais et meurt rarement.
Oui, c'est vrai, ça s'est vu d'ailleurs.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle la Cour suprême a refusé. Elle a refusé parce qu'elle a dit que le Texas n'avait pas intérêt à agir sur d'autres territoires. Ouais. Que le Texas.
Ce qui est assez évident.
Et c'est assez évident, en fait. D'ailleurs, ça existe en droit français, la question de
bien
l'intérêt
sûr,
à agir.
Oui, bien sûr.
Donc, si moi, je suis dans ma ville et que tout d'un coup, je dis « c'est pas bien ce qu'a fait Nantes alors que j'habite Paris », mon intérêt à agir est faible. Et donc, c'est un check and balance, comme on dit, mais nous aussi, nous l'avons quand même. Hein. Je voudrais juste te dire
oui,
sur
oui,
ça.
Oui.
Nous aussi, nous avons cette question de l'intérêt à agir. Tout le monde est étonné, mais en même temps, regardez à quel point les États-Unis ont réussi.
Allez, pour finir, puisque tout à l'heure vous avez évoqué le doute en commençant cette émission, chère Nathalie Rastoin, et que vous savez qu'est morte il y a quelques jours Anne Sylvestre, la grande chanteuse, qui en 1977 avait fait une belle chanson sur les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons. même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens, ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
Anne Sylvestre, les gens qui doutent, et contrairement à ce que d'aucuns croient ici, nous doutons tous et nous en réclamons du doute, comme Montaigne, Descartes et autres. Merci beaucoup à Jean-Luc Arblat qui a préparé l'émission, réalisé l'émission, à Capucine Patouillet qui l'a préparé. Voilà, c'est pas Capucine qui a réalisé et Jean-Luc qui a préparé, mais l'inverse. Merci à la reine Catherine. Merci beaucoup à Nathalie Rastoin. Et maintenant, on vous laisse en compagnie de Laurent Mariotte, que je salue.
Bonjour Laurent.
Bonjour Catherine et bonjour Olivier. Ce samedi, on vous emmène préparer les fêtes en Provence, du grand aïoli aux 13 desserts. On a de quoi faire, vous allez entendre. Et puis Catherine Jacob sera notre invitée sur les coups de midi. A tout de suite.
A tout de suite Laurent.